9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Dominique Besnéard.
Bonjour.
J'adore la question que vous venez de poser aux antennes. On nous entend avec le masque.
Oui, parce que
c'est un peu le principe de la radio, Dominique.
Oui, mais j'ai un cheveu sur la langue. Quelquefois, ça pourrait être accentué avec ce masque.
Alors, je n'avais jamais entendu. Vous faites bien de le dire. Vous êtes comédien, Dominique Besnéard, mais surtout producteur et initiateur de la série 10%. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est la série inspirée par la vie de l'agence Armedia, où vous avez été pendant 21 ans agent là-bas. Bonjour Nejma Van Egmond.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisé culture et cinéma et vous co-signez tous les deux un livre entre album de souvenirs et enquête journalistique, Armedia, une histoire du cinéma. Armedia, agence créée en 70 par Gérard Lebovici, un personnage romanesque, flamboyant, mort assassiné dans des conditions mystérieuses. On va y revenir, mais d'abord, la série qui retrace la vie d'Armedia s'appelle 10%, ce n'est pas un hasard. Tout part d'une intuition, d'une volonté de Gérard Lebovici, c'est 10%.
Avant, il y avait déjà des agents avant, ouais. Gérard Lebovici, mais c'était un peu des secrétariats d'artistes tenus par des gens qui étaient plutôt groupies. Par exemple, Olga Ortig, elle avait Bardot, Morgan, Gérard Houry. Donc, c'était souvent des journalistes qui, à un moment donné, voulaient s'occuper des intérêts d'acteurs. Et il y avait aussi, après, il y a eu Georges Baume, grand agent aussi, très littéraire. Et sinon, il y avait deux agents qui s'appelaient Simura et Bernheim, qui étaient les grandes agences qui avaient tout le gratin du cinéma des années 40.
Mais ce qui était différent dans cette manière de travailler dans les années 50, c'est qu'avant, les comédiens prenaient des gros chèques, c'était des grosses vedettes, mais c'était fini. Et ensuite, avec notamment sur le modèle des Américains, Lebovici prend 10% à ses clients, mais il leur permet d'avoir des royalties à vie sur leurs films. C'est ça qui a changé la donne.
Oui, parce qu'il y avait aussi les modes d'exploitation changés. Avant, il y avait que la salle. Après, il y a eu la télévision, il y a eu les vidéos et tout ça. Mais n'empêche que moi, quand j'étais chez Armedia, j'adorais fouiller dans les archives. Et je suis tombé sur les archives des contrats de Gabin, puisque Simura avait été racheté par Lebovici, par Armedia. Et donc, tout est classé du reste. Et chez les contrats de Gabin, il y avait 4 pages. Hein. Il y avait beaucoup sur l'histoire de la cantine. Il y avait la cantine, il y avait la doublure lumière. Il y avait bien sûr la somme. Donc je refaisais des calculs pour voir ce que ça représentait. C'était beaucoup d'argent, mais il n'y avait plus d'autres exploitations. Il y avait peut-être l'étranger, voilà, sur l'étranger.
Alors c'est un livre de souvenirs, évidemment, mais également une enquête journalistique fouillée. Nejma Van Egmond, vous êtes journaliste culturel. Comment vous avez travaillé?
En fait, on a tout simplement rencontré tous les agents de l'aventure Armedia. On a commencé par ça, et ça fait du monde, parce que la plus ancienne, la doyenne, c'est Josette Arrigoni, elle a 91 ans. Les plus jeunes qui ont quitté Armedia aujourd'hui ont une cinquantaine d'années, donc il a fallu aller voir ces gens, discuter avec eux, raconter leur expérience, donc c'est déjà une quarantaine d'entretiens. Après, c'est une bibliographie assez fouillée. Et puis après, c'est aller creuser sur effectivement la méthode Armedia, qui était une méthode complètement révolutionnaire inventée par Lebovici.
Et alors, je dois le dire pour avoir lu le livre en entier, c'est que c'est pas seulement un livre de souvenirs, c'est pas les bisounours. Il y a de la véritable enquête avec des chiffres. Parfois, on tombe de sa chaise. Un mot, j'en parlais de Gérard Lebovici, le fondateur, mort assassiné dans un parking. Il part un soir en voiture à un mystérieux rendez-vous. On le retrouve 2 jours plus tard, 4 balles dans la nuque. Après 7 ans d'enquête, l'affaire a été classée. On n'a jamais su qu'il avait tué. Il y a 6 hypothèses, c'est encore plus mystérieux que Dupont de Ligonnès. Vous mettez les 6 hypothèses sans pouvoir trancher.
Ah non, c'est impossible de trancher. Il y a eu 7 ans d'enquête, quasiment 300 auditions. Personne n'a dénoué le mystère. Certains pensent que des langues vont peut-être se délier quand les acteurs ou les commanditaires de l'assassinat vieilliront et feront leur testament. On a un peu du mal à y croire. Il y a quelques hypothèses plus plausibles que d'autres, mais ça reste vraiment très, très mystérieux.
Il était en lien avec le situationniste Guy Debord, qui l'admirait, ses proches de la Vénération, qu'il a édité également, mais aussi Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1. Il y avait aussi beaucoup d'argent. Il y a un cahier image aussi dans ce livre. Avec des photos d'époque, vous reproduisez des documents, des pages de l'agenda de Jean-Louis Lévy, qui a succédé à Lebovici, avec des notes manuscrites, notamment celle-ci, « Impôt Jean-Louis Trintignant ». Donc on apprend qu'on paye les impôts. Et deuxième chose, cette lettre, cette note que Claude Berry vous a laissée, Dominique Besnéard, je la cite en entier. Dominique, merci. Trouve-moi un rôle où il y a beaucoup d'argent à prendre. Je t'embrasse, Claude. Pourquoi avoir osé publier ces notes ?
Parce que Claude, en fin de compte, c'était un acteur avant tout. Il voulait être acteur. Voilà, et donc il n'a pas vraiment réussi comme acteur. Il a quand même fait des films importants.
Oui, mais j'ai pas là, dans toutes les interviews, il disait « Moi, l'argent ne m'intéresse pas. » Et là, qu'ils vous disent « Trouve-moi un film où il y a beaucoup d'argent. »
Parce que pour me mettre en boîte, j'en sais rien, pour me dire... Parce que peut-être que j'avais négocié un contrat avec lui et qu'il n'était pas content, que c'était trop. Ouais. Donc il mettait mon nez dans le caca, voilà. Non, mais Claude Berry, du reste, c'est un personnage très important.
C'est lui qui a soufflé l'idée de la création de l'agence à Gérard Lebovici, donc c'était aussi une façon de lui rendre hommage.
Il y a combien de chapitres ? Parce que sur chaque chapitre, on pourrait faire une émission, ce qui n'est pas le moindre mérite de ce livre. C'est absolument passionnant. Ça s'appelle Art Média, une histoire du cinéma français. On va raconter encore des histoires. Et votre portrait inattendu, Dominique Besnéard. Merci beaucoup, Nejma Van Egmond. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Dominique Besnéard qui co-signe Art Média, une histoire du cinéma français, je ne vous présente pas Hélène Manarino, Dominique Besnéard, puisque je sais que vous écoutez l'émission quasiment tous les matins.
Oui, du reste, vous le savez, sur Eddie Despréto, vous avez eu mon message.
Oui.
J'adorais cette émission.
Merci pour votre
message.
Je
peux vous donner des notes, si vous voulez.
Attendez, après la note. D'abord l'examen, ensuite la note. Vous avez à peine la pression maintenant, Hélène Manarino.
Pas du tout.
C'est à vous.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Dominique Besnéard, je suis là donc pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, gros doudou, doudou, dodo ou encore nénesse, comme vous surnomme Béatrice Dalle. Vous avez fait de votre vie un cinéma absolument incroyable. Vous êtes une référence, on peut le dire. Mais quel est véritablement le film de votre vie, Dominique Besnéard ? Il est temps de dire action et de le découvrir. Je vous laisse dire action pour qu'on y aille.
Action.
Nous allons faire jouer des personnages principaux de votre vie que vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais la vedette, c'est vous. Commençons par les premières prises, celles de votre enfance. Vous collectionniez les bouchons de bouteilles de parfum dorées, sauf que vous les mettiez dans votre bouche. Et votre maman était très inquiète.
J'avais trouvé ça où ?
Voilà.
C'est un drôle de symbole.
Oui. No comment.
Entouré des photos de Sylvie Vartan. Enfant assez rêveur et un peu bordélique, vous ne rangiez pas votre chambre. Au grand désespoir de votre frère, ça finissait souvent en bagarre d'ailleurs. Vous aviez l'habitude de ne pas faire votre lit, par exemple, sachant qu'aujourd'hui, faire le ménage vous détend, surtout passer l'aspirateur.
Non, c'est vrai.
J'adorais ça.
C'est vrai. Bon, chacun ses loisirs.
J'ai toutes les derniers Dyson.
D'accord.
La seule chose qui était, les seules choses qui étaient bien rangées, c'était vos cahiers de cinéma. Vous notiez tout, vous aviez des fiches sur les films, les acteurs, les actrices, vous découpiez les articles. Vous faisiez même des caméras avec les cartons de marchandises. Observez les comédiens à la télévision, grâce à votre grand-père maternel. Il vivait à la campagne, vous n'y allez pas pour ça, non, mais juste pour regarder la télé. Le moindre détail vous passionnait, les costumes surtout, grâce à l'une des clientes du magasin de votre maman. Elle travaillait dans la mode. Vous l'observiez, vous vouliez être grand couturier. Et grâce à elle, vous avez commencé à créer des costumes pour les Barbie à seulement 6 ans. Dominique Besnéard, on continue votre long métrage, un peu d'action, comme ce jour à l'âge de 5 ans où vous avez organisé votre grande évasion à Versailles. Vous êtes parti seul, sans rien dire, plusieurs heures, vous promenez. Vos parents vous ont retrouvé près d'une pompe à eau en train de discuter avec des SDF.
Non, on dirait un début de film, c'est tellement beau.
L'art, la scène, créer, transformer et chanter, surtout cette chanson.
Reviens donc ici, petit Gonzalez. C'est maman qui te dit ça.
Dalida, évidemment.
Je sais, mais vous a donné toutes ces informations.
Cette chanson que vous chantiez aux réunions de famille, au patronage Saint-Louis à Houlgate, avec votre bonnet en laine. Dominique Besnéard.
Il avait oublié le bonnet en laine.
J'avais oublié le bonnet en laine.
Pas moi. Dominique Besnéard, l'amour du cinéma est venu aussi grâce à vos parents. Ils travaillaient beaucoup, mais le dimanche, ils vous emmenaient au cinéma. Ils vous donnaient régulièrement une pièce de 5 francs. Et vous pouviez aller admirer celles et ceux qui allaient le plus vous inspirer. Dimanche après-midi cinéma, mais dimanche soir, une fois par mois, c'était soirée crêpes. Évidemment, un événement familial, les crêpes de votre maman, très légères, vous en mangiez donc 15 par personne, parfois.
Non. Oui, nous, ma mère, elle avait du genre à nous bourrer vraiment pour qu'on mange bien.
Ah ouais, à partir de 12, ouais, c'est comment ça. C'est de la gourmandise.
Dominique Besnier, vous avez surtout toujours concrétisé vos rêves d'enfant, ce qui rend votre film très authentique. L'un des rôles les plus importants, c'est votre professeur de théâtre au lycée à Deauville, Madame Schoenfeld, âgée aujourd'hui de 95 ans. Elle vit dans le sud de la France et vous l'appelez tous les 1er janvier. Alors passons à présent à toutes les scènes, presque toutes de votre quotidien. Et en ce moment, la bande originale, c'est ça.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne.
Et vous venez de le dire, Eddie Depreto, vous l'aimez beaucoup, vous écoutez son dernier album. Vous collectionnez aussi des boîtes, toutes sortes de boîtes. La nouvelle technologie vous angoisse, même si vous êtes un peu le pro de Facebook, surtout pour souhaiter les anniversaires sur ce réseau social. Alors, vous ne supportez pas les mots de passe, ils sont beaucoup trop nombreux pour vous, vous n'arrivez pas à copier-coller les mots de passe pour regarder une vidéo en ligne.
Vous devriez jamais dire ça publiquement.
Dès que vous vous levez, vous mangez votre pain au lait en écoutant Europe 1 tous les matins, surtout l'émission d'un certain Philippe Vandel.
Merci.
Toujours mille choses dans la tête, vous ne vous arrêtez jamais, votre phobie, les vacances, vous faites tellement de choses que vous oubliez souvent votre portable dans le taxi. D'ailleurs, dans le taxi, vous montez toujours à droite. Dominique Besnier, votre décor préféré, c'est bien évidemment Angoulême, où tout le monde vous connaît. Vous adorez faire la distribution des catalogues dans chaque magasin de la ville. C'est un rituel, tout le monde vous connaît évidemment, généreux. Vous aimeriez en ce moment offrir le DVD de 10% à chaque personne que vous croisez. Et oui.
Il en faut, dis donc.
Vous lisez en ce moment L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas et vous aimez vous détendre en lisant Point de vue. Oui, la royauté vous fascine. Alors Dominique Besnier, vous continuez surtout à rêver de plein de choses, de projets. Votre rêve, ouvrir un théâtre. Vous êtes un pilier du cinéma français et votre film ne s'arrêtera jamais.
Merci beaucoup,
Hélène.
C'est
super, hein, mais vous faites, c'est elle qui doit faire l'enquête sur les Bovici. Elle trouverait peut-être le meurtrier, parce qu'elle est incroyable. Mais vous savez, parce que moi, il y a même des choses que j'ai oubliées, donc c'est vraiment quelqu'un de très proche.
Oui,
bravo. Hein.
Vous savez ce qu'on a pour vous ?
Non.
15 crêpes. Merci beaucoup, Hélène Manarino. À demain.
Hélène,
Dominique Besnier, reste avec nous.
Je suis contente de vous connaître, en plus. Ouais, ah, parce que j'entendais votre voix. Et...
J'adore quand il se passe des choses sur un plateau de radio. Culture Média continue, à tout de suite.
Action.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Dominique Besnier, il est agent, il est producteur. C'est lui qui a initié la série 10% dont il est le producteur. Série qui elle-même raconte d'une certaine manière la vie de l'agence Art Média, une histoire du cinéma français. C'est ce livre que vous co-signez avec Nejma Van Egmond. C'est à la fois des souvenirs, à la fois une enquête en profondeur. On ne se rend pas compte maintenant de ce qu'était Art Média dans les années 80 à l'âge d'or. À un moment donné, vous dites, je crois, 4 films sur 5 étaient produits par Art Média dans le cinéma français.
Oui, c'était vraiment la puissance. Du reste, il a été obligé de quitter Art Média, les Bovici, parce qu'on disait qu'il était producteur et on ne pouvait pas être producteur et agent. Donc c'est pour ça qu'il a dû partir, forcé par les syndicats de producteurs et d'agents. Donc il a fait 3A, qui a été la grande maison de distribution. Et en même temps, il a mis son dauphin, qui était Jean-Louis Lévy. C'est avec lui que j'ai d'abord travaillé.
Le neveu de Montand.
Voilà, en plus qu'un homme exceptionnel et qui est le producteur de The Father, là, quand même. Hein.
Ouais.
C'est lui, donc...
Et ce que j'ai appris, parce qu'on pourrait imaginer que c'était le cinéma à la papa, comme disaient les gens de la nouvelle vague des années 70-80, mais pas seulement, puisqu'à la grande époque, Art Média produisait des films populaires, comme les gros films de Belmondo, suspendus par un fil à un hélicoptère pieds nus, mais aussi des chefs-d'œuvre de Romère, je pense à Manu chez Maud. Art Média, c'était tout ça, les Bovici, c'était tout ça. C'était un érudit, un grand lecteur.
Manu chez Maud, je ne suis pas sur Pauline à la plage.
Ah, c'est dans le livre, je peux vous dire, Manu chez Maud, c'est dans le livre, je vais le retrouver.
Alors, c'est pas grave, peut-être qu'il l'a distribué, redistribué. Non, mais il avait aussi René. C'est lui qui produisait René, quand même. Et René, à l'époque, c'était pas si simple. Hein, voilà.
Oui, c'était ce qu'on appelle du cinéma d'auteur. Et
je vais retrouver le passage. Non, mais il a jamais. Et puis, il a fait La Balance, qui a été un énorme succès. Voilà, il avait raison. Il était pas sectaire. Et voilà. Et du reste, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il était situationniste, il était d'extrême gauche et presque pour la Révolution. Et il côtoyait des gens qui étaient la plupart. On parlait d'argent et on parlait de lumière, de voilà.
Voilà, ce qui lui permet notamment de soutenir Manu chez Maud d'Éric Rohmer en 69, où La Maman et la Putain de Jean Eustache.
Ah oui. Il l'a soutenu, mais il n'était pas...
D'accord.
Il était agent à l'époque.
Ah,
il est
tellement, voilà. On est page 54.
Ah, non,
donc je me
disais
que ça m'avait frappé.
Non, mais il était agent. Il n'était pas distributeur.
Parce que c'est un film que j'adore.
Donc, c'est très clair, voilà.
Si
on aurait
déjà...
pu faire une erreur. Hein.
Comment Ouais, il y en a aussi, moi aussi j'aurais pu en faire. Je m'adresse juste comme ça aux gens, je n'ai jamais vu un film de Romère. Regardez, Ma nuit chez Maud, ça n'a pas pris une ride. C'était un grand lecteur, les Bovici.
Oui, très grand lecteur. Et en plus, dans Ma nuit chez Maud, il y a des deux acteurs dont je suis très proche, Jean-Louis Trintignant
et François Fabian.
Et François Fabian, qui est une grande amie que je vois très souvent.
Nicolas Caro, je me tourne vers vous. Vous avez vu la transition cinéma, livre, lecture. Et cette semaine, vous avez lu pour nous le nouveau roman de Jean-Christophe Ruffin.
Oui, Jean-Christophe Ruffin, qu'on connaît notamment pour son prix Goncourt en 2001, Rouge Brésil. On lui doit aussi Mortelle Randonnée ou Le Collier Rouge. Il est académicien, il a été diplomate, médecin, il a eu mille vies. Bon, mais depuis 2018, il s'est trouvé une nouvelle passion. Il s'amuse avec un nouveau personnage, Aurel Timescu, qui devient un héros récurrent, puisque c'est le quatrième volet de ses aventures. Un consul, un diplomate un peu gauche, un peu maladroit, toujours habillé comme l'as de pique, mais qui joue les détectives. Il se situe, si vous voulez, entre Monk, Columbo et Inspecteur Gadget.
J'avais vu le précédent. Alors, il est maladroit, ce personnage, mais il est intelligent aussi. Hein.
Voilà, il est très fort dans l'art de la déduction. Et le revoilà donc avec sa nouvelle aventure chez Flammarion, La princesse au petit mois. Ça démarre à Paris. Il a été rappelé par le Quai d'Orsay et il attend une nouvelle affectation. Et ça tombe bien, il peut s'adonner à sa passion, ne rien faire et boire du vin de Tokay et jouer du piano. Mais il est contacté par une femme, la messagère du prince Rupert, à la tête de la principauté de Starkenbacht.
On se croirait dans Tintin. Elle existe, cette principauté?
C'est exactement pareil. C'est comme la Sylvie, c'est complètement fictif. Et c'est inspiré, effectivement, du Liechtenstein, ou de Monaco, ou d'Andorre. Il y a un peu de Détroit, sauf que c'est dans les Alpes. C'est un mélange d'un peu tout ça. Aurel est invité pour résoudre discrètement, surtout, une énigme. La princesse Hilda, la femme du prince Rupert, a disparu juste avant un événement organisé pour la fondation qu'elle marraine contre le recrutement des enfants soldats. Elle y tenait beaucoup, donc c'est très étrange. Ouais. Est-ce un enlèvement, un meurtre, une fugue peut-être?
Et maintenant, je vous connais. Là, vous faites un cliffhanger et je vous demande alors c'est quoi? Et vous n'allez pas me le dire.
Eh ben non, certainement pas. Mais je peux vous dire que Aurel accepte parce que c'est très très bien payé en lingots d'or et on le suit donc dans la principauté de Starkenbach avec l'aide de la secrétaire de la princesse Hilda et surtout avec ses méthodes un peu approximatives mais efficace. D'abord, il faut comprendre où il se trouve. Il est chez les princes, chez ses altesses, n'est-ce pas? Il y a un protocole à respecter. Et au début, il a un peu de mal quand il s'assoit, par exemple, devant le prince. Il sait qu'il y a une règle à respecter, croiser les jambes ou non quand il est assis, mais il ne sait plus quelle est la bonne solution. Et ça, c'est directement inspiré de l'expérience de l'auteur Jean-Christophe Ruffin, ses souvenirs de diplomate.
Il y a tout un protocole qu'on paye d'une certaine manière, parce que si vous mettez le prélat un peu trop loin, l'ambassadeur truc de représentant machin, il vous en veut à mort. Donc vous, vous vous en fichez, vous pouvez vous en ficher, mais pas eux. Donc il faut faire, ne serait-ce que par égard pour les autres, et surtout si vous ne voulez pas d'ennui, il faut faire quand même très attention. Normalement, si on veut se tenir bien, pendant par exemple des visites officielles, il faut rester sans croiser les jambes. Bon. Et moi, j'étais en poste au Sénégal, et les Sénégalais faisaient très attention à ça. Ils sont très, très pointilleux sur cette étiquette. Mais les Français, ils ont un petit peu oublié comment ça marche. Et alors, on en voit qui croisaient Jean, puis ils se disaient, ça ne peut pas être ça, non, alors, voilà. Et Aurel, bon, bah, vous savez, il n'a pas les codes, parce que d'abord, là, il faut avoir doublement les codes. Il faut avoir les codes de la diplomatie, mais il faut avoir les codes de ces petits États qui ont chacun leur étiquette particulière et tout. Et lui, bah, il rame un peu au début.
Alors Aurel, le héros en couverture avec ses chaussures bizarres et son grand manteau, c'est lui en couverture.
Eh oui, alors ça c'est une curiosité éditoriale. Dans ces cas-là, normalement sur la couverture, on a une image de paysage ou de l'arme du crime, que sais-je. Là, Flammarion a fait le choix de représenter Aurel par une photo. C'est un comédien, il s'appelle Nicolas Delaverne, il a des faux airs de John Malkovich d'ailleurs. Ouais. Il est sur la couverture depuis le premier épisode et il y a une bonne raison pour ça.
Au début, moi, vous savez, moi j'ai commencé comme un divertissement. Qui n'est jamais gratuit d'ailleurs, parce que ça, à chaque fois, on explore un problème du monde contemporain finalement. Mais enfin, quand même, on est à la remorque d'un petit personnage drôle, qu'on veut sympathique, qui, j'espère, l'est, qui en tout cas s'est attaché beaucoup de lecteurs. Et on s'est dit que la meilleure façon de montrer ce qu'on voulait faire au début, parce que quand j'ai commencé, les gens me disaient, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'était de le représenter. Donc il est là. Alors d'habitude, on le voyait de dos, là, on commence à voir un peu sa bouille. On l'a fait poser. Je vais aux séances de pose du comédien quand on le prend pour les couvertures. Vous voyez. Alors là, il fallait qu'il fasse un baise-main, parce qu'évidemment, l'idée, c'était de le situer dans un cadre princier, et puis qu'il fasse un baise-main à cette princesse ben, qui va chercher et qui va trouver, et dont il va nous faire comprendre qui elle est.
Et donc, s'il y a une adaptation, l'acteur est choisi.
Ben voilà, j'espère pour lui. En tout cas, on peut déjà lire le livre, les livres de vrai, faux, polar, drôle, malin et intelligent.
Ça vous a beaucoup intéressé, je l'ai
ah
vu, ouais, Dominique
Besnard.
Ça Besnard.
Peut faire une série. Hein. Ça peut être le nouveau Capitaine Marlowe, au lieu que ce soit une femme qui fasse des enquêtes. Non, mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Je trouve que ça peut être une très belle série, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté Agatha Christie.
Exactement.
Aussi. Vous me le donnez ?
Je ne peux pas, il est dédicacé, j'adore.
Ah bon, bah, je vais l'acheter.
Non,
je vais l'acheter.
Ça, je peux vous dire, si Dominique Besnéard, producteur, dit ça peut faire une série, je peux vous dire que l'éditeur Flammarion va vous en envoyer un.
Mais peut-être que c'est déjà pris, les droits.
Mais je vous en trouve un.
Les récupérer. Merci beaucoup, Nicolas Caro, d'avoir été avec nous. On va parler d'un humoriste avec Louise Bernard. Vous restez avec nous, évidemment, Dominique Besnéard.
Pure emotion, let it burn like fire. Do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake. Do you think about me when you're all alone? When the tide comes in, tell me, where will you go? Do you think about us when you're feeling low? Do you think about
How does it feel? C'était London Grammar sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec le retour de Louise Bernard qui va nous faire découvrir le projet complètement fou d'un humoriste.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Dominique Besnéard, on parle d'Art Média dans ce livre, une histoire du cinéma français co-signée avec Nejma Van Egmond qui est journaliste. Une histoire dans les arcanes, dans les coulisses. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Le lien est tout trouvé avec Louise Bernard. Rebonjour.
Rebonjour.
Vous étiez là tout à l'heure pour les audiences et ce matin, vous allez nous raconter l'initiative d'un humoriste pour pouvoir jouer son spectacle.
Alors, ce n'est pas un énième spectacle en live streaming, mais un projet complètement fou. Patrick Vesselier a décidé d'aller jouer son spectacle en Chine et non
non pas en avion, mais en smart, non. Une petite voiture de deux places. Mais si, la France a des humoristes, mais les salles sont fermées. En Chine, elles sont ouvertes, mais il n'y a pas d'humoristes. Alors Patrick va entreprendre ce périple pour s'y rendre. C'est 12 pays en tout, la France, Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Turquie, Iran, Afghanistan, et puis la Chine, enfin 20 000 kilomètres au compteur. Alors évidemment, j'ai eu envie de demander à Patrick Vesselier, mais pourquoi ?
J'ai eu l'idée un soir avec des amis, c'était une blague au départ, c'était pas une idée, avec des amis, parce que mes spectacles de l'an dernier ont été annulés, un petit peu comme tout le monde. J'ai deux dates restantes en Chine, je me suis dit, il faut que j'assure ces dates. J'ai un copain qui bosse chez Air France, qui m'a dit, fais gaffe, les billets d'avion, c'est pas sûr. Et est venue l'idée, apéritif aidant, de dire, bah, je vais y aller en voiture, mais t'as plus trop de sous, comment tu vas faire ? Mais je vais acheter une Smart. Voilà. La blague était là. Et puis, petit à petit, c'est passé de la déconnade à la faisabilité potentielle. Et puis on a franchi les étapes. Il y a toujours plein de problèmes. Hein. C'est-à-dire, je pars le 30 avril, mais il y a encore plein de trucs à régler. Mais on va le faire.
Voilà, jolie idée quand on prend un apéro entre amis.
Le making of qui doit être formidable.
Bien sûr.
Exactement, mais c'est fantastique quand il vous le raconte. J'avais pas le temps de laisser toutes ces contraintes administratives qu'il m'a racontées, parce qu'il y a les visas, et puis ça ne vous a pas échappé, on est en pleine pandémie. Donc forcément, voyager, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Une petite quinzaine de tests PCR attendent Patrick Vesselier. Un test anal aussi exigé pour rentrer en Chine. Et là, vous allez comprendre hein, toute la complexité du périple. Ce test, il doit l'effectuer à Kaboul. Et il doit le faire traduire. Il y a une seule traductrice agréée qu'il a mis du temps à trouver, une interprète chinoise. Donc, et ça y est, il l'a trouvée, il va pouvoir faire traduire son test.
Non, mais là, c'est où là maintenant ?
C'est pas une blague.
Là, alors, il part le 30 avril.
Ah, ouais.
Et il va jouer en français en Chine ?
Non, et c'est là que ça se complique encore un peu plus.
Il va jouer en chinois ?
Il parlera en mandarin, oui. Une langue qu'il ne maîtrise pas.
Alors non, j'ai pas pris le mandarin, j'ai écrit le spectacle en français. Je le fais traduire par un traducteur chinois, enfin français mais qui parle chinois, Cédric Beau. Il m'enregistre le spectacle en phonétique et je l'apprends par cœur. Oui, alors tout est problématique, le déplacement, le spectacle, tout est... c'est bien, c'est marrant. Non, le spectacle, ouais, il t'apprend en phonétique, même si cette année, j'ai l'objectif d'apprendre le chinois sérieusement pour échanger avec le public.
Ouais, il va profiter du temps passé en voiture hein, pour réviser son spectacle. Hein. Il va le mettre en boucle et puis il va bien le mémoriser comme ça. Et puis peut-être apprendre effectivement le mandarin.
Non, mais attendez,
c'est 8 heures par jour sur la route.
Vous nous avez pas dit ça encore. Il parle de quoi, son spectacle ?
Alors, il n'y a pas de référence culturelle française, évidemment. Il n'y a pas de jeu de mots non plus. C'est un spectacle universel qui pourrait être joué dans n'importe quelle langue, par n'importe qui. Il vient sur scène annoncer au public que Beyoncé est en retard et donc pour les faire patienter, il leur parle et donc en mandarin. C'est un spectacle qui a été validé par le gouvernement chinois, c'est obligatoire hein, et sans aucune censure. Voilà un tout petit extrait de ce que ça donne, on a révisé ensemble.
Ça veut dire, pour faire plaisir à mes parents, je vais faire en sorte de ne pas faire honte aux Chinois.
Voilà, Patrick Vesselier, qui s'est renommé Patrick le Chinois pour l'occasion. Et en fait, vous pouvez suivre ses aventures via son site internet patricklechinois.com ou ses réseaux sociaux. Il a installé des petites caméras dans sa voiture. Il part donc le 30 avril, je vous le disais, et il doit être arrivé pour le 17 juin à Guiyang.
Réaction, Dominique Besnéard ?
Il est hallucinant, mais moi je vais regarder sa tête. En tout cas, il est... Mais alors, il part seul dans la Smart ou il y a quelqu'un
seul
avec lui ?
Non, il part seul, il y aura son bagage à côté.
Il y a deux places dans une Smart. Vous pouvez filmer qu'une petite caméra.
Moi, je ne suis pas assez aventurier pour faire ça. En tout cas, il va se faire connaître. Mais il faut qu'il fasse son métier.
Évidemment.
Qu'il filme. Sinon,
bien sûr, il se filme. Vous pouvez suivre tout ça. Et puis, il va s'arrêter dans certains endroits, dans les ambassades françaises. Parfois, faire des petites conférences pour expliquer son projet. Et il y a un hashtag. Si vous le croisez, si vous croisez sa Smart, si vous êtes en France ou ailleurs, vous pouvez faire le hashtag « J'ai croisé Patrick le Chinois » ou « I met Patrick le Chinois ».
Ou « J'ai fait un test en Afghanistan ». Merci beaucoup, Louise Bernard. Vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser, Dominique Besnéard, notamment sur 10%, saison 5 ou pas saison 5. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Dominique Besnéard, notre invité, ex-agent, producteur, il co-signe avec Nejba Van Egmont Art Média, une histoire du cinéma français, c'est aux éditions de l'Observatoire. Art Média qui a donné naissance, romancée à la série 10%. Et hier, comme je sais que vous écoutez l'émission, vous l'avez entendu, je recevais le producteur Thomas Anargyros, président de Media One Studio, qui nous a annoncé qu'une saison 5 de 10% allait être mise en route. Maintenant que c'est officiel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Pour le moment, c'est pas prévu immédiatement. D'abord, on va faire un. Pour ça que c'est peut-être.
C'était prématuré.
Oui, mais 10% créent une hystérie. Donc, et à un moment donné, hier, toute l'après-midi, on m'a dit c'est vrai. Après votre émission, j'ai eu l'impression que c'était un événement. C'était un tsunami. Tout le monde me disait, mais il y a. Non, on a peut-être prévu dans quelques années, mais là, pour le moment, on va faire un unitaire, comme vous avez dit il y a quelque temps.
Oui, on avait annoncé l'unitaire.
Donc, à Nolmes. Et donc, ça va être l'unitaire qu'on commence à écrire, qui, j'espère, se passera à New York, parce que vous savez qu'au Colma Yadjen, tous les acteurs américains, sans prétention, ont envie d'y être.
Colma Yadjen, c'est la version américaine, voilà. Anglaise.
Américaine. C'est la série française qui s'appelle Colma Yadjen sur Netflix.
Compris.
Donc c'est sous-titré, voilà. Et donc là, on va faire un unitaire, et parce que déjà, tous les acteurs sont pris partout, sans parler de Camille Cotin, qui est en train de faire une carrière aux États-Unis, mais Grégory Montel tourne à Londres, Stéphie Selma en Italie. Incroyable, on dit quelquefois que la télévision ne favorise pas les carrières, mais en tout cas, eux, ça les a beaucoup aidés. Et par contre, ce qui est très important, c'est ça la nouvelle qu'il faut dire, c'est que mi-mai, il y a la version, donc le remake anglais qui se tourne, qui est produit par Christian Bauth et David Davoli, qui eux, il y a un moment qui nous voient, ils ont pris les droits et il y a un tournage, donc la série anglaise de Colma Yadjen. Et là, c'est un remake, donc avec d'autres acteurs, c'est pas nos acteurs qui jouent, voilà. Et donc, ce qui va être marrant, du reste, c'est assez marrant parce que comme ils sont très, très bien élevés, c'est des Anglais, ils nous envoient un peu les visages qui ressemblent ou pas. Et donc, voilà. Et sinon, et là, quelque part, contrairement à la série turque, on nous a demandé aucun avis. Ouais. Parce que vous savez, dans la série turque, on a enlevé l'homosexualité, on a mis des voiles. Bon, ben là, les Anglais, ils nous tiennent vraiment au courant. Et moi, je suis ravi que ça se soit fait. Voilà. Et donc, c'est court-circuité cette saison, cette remake anglais, en annonçant une série 5. Ça sera peut-être plus tard. Mais il y a l'unitaire et la série anglaise.
L'autre projet, c'est une série inspirée autour de la vie, de l'existence du Crazy Horse, c'est bien ça ?
Oui, non, mais il ne faut pas dire Crazy Horse, mais en même temps, c'est la vérité. Ouais. Moi, j'habitais, Armédia, c'était 10 avenue Georges V, il y avait le Crazy à côté, donc moi, c'est le Crazy de l'époque, l'époque quand j'étais agent. Ouais.
Et ce sera une série historique ? Ça se passera dans les années 70, 80 ou maintenant ?
Non, pas du tout, à notre époque, et c'est plus du tout au Crazy, c'est du côté ça sera au Paradis Latin. Mais il faut que ce soit un endroit où les gens sont pas anonymes. Le Moulin Rouge, le Lido, c'est des paquebots. C'est un truc familial. Et c'est écrit notamment par Marc Fitoussi, qui a fait 10%, donc qui est vraiment le metteur en scène. Donc là, voilà, ça on va l'annoncer assez vite. En tout cas, là, ça c'est écrit, voilà.
Bah là, vous venez de l'annoncer en pleine époque.
Non, mais on va bientôt communiquer sur ouais. Les acteurs.
Et juste une question, en pleine époque MeToo, est-ce que c'est le moment de faire une série à l'export avec des jeunes femmes à moitié nues ou dans des exercices de striptease ou de séduction ?
Non, mais ça n'est pas que ça. C'est le Paradis Latin. Quand vous voyez le Paradis Latin, on y emmène les enfants. Mais même au Crazy, on emmène les enfants maintenant. Il n'y a rien de subversif. C'est un hymne à la beauté. Si on ne peut plus dire qu'une femme est belle, que le corps d'une femme est belle, où on va
Alors, dans la série, c'est plus ce que c'était, les Césars 2021, vous avez dégommé la cérémonie dans le L, vous avez dit que c'était un truc d'entre-soi pour bobos parisiens, et dans le Point, vous êtes allé plus loin, vous avez qualifié la cérémonie d'exception culturelle de la vulgarité. Qu'est-ce qui vous a déplu à ce point ?
Ce qui m'a déplu, c'est pas le palmarès, c'était très bien, par contre, mais c'est la scatologie, c'est le fait que comment voulez-vous au cinéma, ça doit quand même faire rêver. Alors peut-être que j'ai plus de 60 ans, que je suis vieux, que moi je préfère voir Romy Schneider en larmes ou Annie Girardot dire à tout le monde que le cinéma lui a manqué, que de voir des gens qui font des plaques entre eux. Voilà. Alors quand Blanche Gardin dit ses textes, ça va très bien parce qu'elle a dû du génie, mais c'est très compliqué là. Ça, c'est un peu entre soi. Du reste, moi, tous les gens qui n'ont rien compris, ils ont dit, mais c'est pas ce qui va faire revenir les gens au cinéma. Mais en même temps, c'est en même temps, c'est pas tenir Marina Foy toute une soirée. Il faut, c'est pas facile. Donc, mais c'est les textes qui sont un peu dérangeants parce qu'il n'y a pas assez d'amour du cinéma.
On a compris. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour du cinéma. On en trouve dans ce livre Art Média, une histoire du cinéma français. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est co-signé par Nejma Van Egmond.
Ouais, et vous que j'ai vraiment fait une rencontre parce qu'elle est extraordinaire. Ouais. Et elle m'a appris beaucoup de choses. C'est une très bonne enquêtrice.
Hein. Et elle était dans le début de l'émission. Donc si vous voulez entendre Nejma Van Egmond, vous l'écoutez l'émission en podcast dès qu'elle est dispo et vous l'entendrez. Merci d'avoir été avec nous.
Merci,
Dominique Besnéard. Demain, ce sera Patrick Sébastien qui sera avec nous pour son grand retour à la télévision sur C8 dans l'émission Samedi Sébastien. Et puis le duo Madame Monsieur, c'est de la musique, il y a leur nouveau single qui sort. On sera ravis qu'ils soient avec nous juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Je dis à demain, bonne journée sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs ? Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor ? Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.